Nous étions depuis ce matin 109. 109 personnes, nous sommes ensemble 109.
Du 109.
Si vous voulez. Si ça vous chante, j'ai des propositions à vous faire au nom de ce forum-ci. Avant, pour conclure les constats et la dimension expérience, je voudrais vous lire justement. Je voudrais vous lire un témoignage qui nous est parvenu, et témoignage extrêmement fort, je trouve. Une collègue qui est psychomotricienne, qui n'a pas souhaité le faire elle-même, et qui n'a pas souhaité que son nom soit donné. Néanmoins, ça n'enlève pas la force de son propos que je vais vous lire. On pourrait carrément faire une étude de texte. Entrave, avec un S, ça s'appelle comme ça. Actuellement, il m'est demandé de me référer à des signes cliniques objectivables, à des grilles d'observation, à des méthodes issues de protocoles de soins, afin de faire évoluer des comportements visant à limiter le handicap préjudiciable à l'intégration sociale. Je ne dois plus chercher à comprendre ni tenir compte de mes ressentis. Je dois constater des faits. On tend à me faire entendre qu'il existe juste une simple différence dans le vocabulaire employé, mais que traits, symptômes, comportements, signes cliniques ne sont qu'une seule et même chose. Pourtant, il me semble qu'il y a de subtiles différences entre ces termes, qu'ils ne recouvrent pas la même orientation. Ma préoccupation reste d'accueillir chaque enfant et chaque famille avec leurs spécificités, à tenter de comprendre ce qui sous-tend un comportement, à tenter de faire des liens et à offrir à chacun une aide personnalisée car construite, inventée ensemble. Malgré ce désir qui me porte et cette certitude que seule cette voie permet de rencontrer et de construire un individu, je suis en souffrance dans mon travail et la pression neurodéveloppementale et cognitivo-comportementaliste envahit mes séances presque à mon insu. Ma profession de psychomotricienne n'est pourtant pas de celle qui met à distance le corps et ses fonctions instrumentales, les notions de plasticité cérébrale et de connexion neuronale. Il me semble être justement bien placé pour articuler corps fonctionnel et corps relationnel. Certains me disent « tu t'en fiches, tu fais ce que tu veux à l'intérieur de ta séance de toute façon », et c'est vrai. Il n'empêche que ça rend fou de procéder d'une certaine manière dans un espace et d'en rendre compte d'une autre manière dans un autre. Comment faire rentrer dans une case, intégration sensorielle, routine interactive, limitation réciproque de jeux de bouche, les jeux de corps à corps en comptine, la construction d'une cabane et le répit qu'elle offre face au crocodile. Autant de mises en jeu du dedans-dehors, des limites, des appuis, de l'enveloppe, de la verticalité, de l'oralité, de la dévoration, du bi et du tridimensionnel. Je vis un paradoxe permanent entre une direction qui semble soutenir et répondre à la demande de l'équipe en finançant des espaces de réflexion, supervision qui soutient le pulsionnel, le désir, le décortiquage des interactions, analyse des pratiques professionnelles qui soutient le dire des difficultés rencontrées et cherche des améliorations sous un angle plus concret, mais qui demande en staff qu'une restitution de l'évolution de l'enfant lui soit faite en termes de faits objectivables, d'axes de travail avec précision des moyens employés, d'objectifs atteints ou non, et de comportement évalué par un outil partagé. Il est désormais tacitement interdit de parler de pulsion, de structure, et les hypothèses sont considérées comme interprétations. Convoquez l'empathie, il vous est recommandé de vous garder de l'affectif. Toute parole est prise au pied de la lettre, jamais en termes de transfert et contre-transfert. Au sein des séances, et malgré l'expérience, le soutien des collègues, les espaces de pensée professionnels ou personnels, la souffrance est là. Le symptôme est envahissant. Il attaque, le comportement inadapté agace. L'enveloppe institutionnelle du soignant n'existe plus. Il m'arrive de ne plus être disponible pour entendre ni répondre, d'autant que les recommandations de bonne pratique instillent du doute et me perdent plus qu'elles ne me soutiennent. Comme si seule, la méthode comptait. La rencontre et la globalité de l'être au monde disparaît au profit de la compétence à travailler, à faire acquérir pour se montrer adapté au monde. Bref, le contraire même de ce que la psychomotricité recouvre. Dans un sursaut, je retrouve mes fondations. Dialogue tonico-émotionnel, motricité ludique en relation, appui, posture et sensorialité, enveloppe et limites corporelles, temporalité. Je m'accroche pour rester fidèle à la psychomotricité, tricotage non consensuel entre organismes, l'équipement de base et ses avatars, corps fonctionnel dans son rapport au monde des objets et à l'environnement, et corps relationnel, émotionnel, habité dans son rapport à l'autre. Voilà ce texte que nous avons reçu et qui personnellement je trouve tout à fait marquant et dont le titre au fond « Entrave » est un excellent concentré de ce que notre collègue nous dit, de ce qui au fond vient entraver son travail. À partir précisément de ces deux points qui ont été mis tout au long de la journée en avant, premièrement, je trouve ça très très important de considérer ce qu'implique la notion de bonne pratique. Je trouve ça important parce que c'est une véritable formule manipulatrice. Je ne dis pas qu'il y a des manipulateurs, je ne parle pas de ça. Je parle de la formule. C'est un discours qui manipule. Il manipule en effet parce que, effectivement, comme l'était indiqué tout à l'heure par notre collègue, psychologue, clinicien du travail, qui peut être contre vouloir bien faire ? Qui peut être contre considérer que l'on se pose ensemble, que l'on réfléchit, que l'on discute, que l'on essaie de voir où on a merdé, pour le dire comme ça rapidement. Qui peut être contre cela? Évidemment personne. Le problème n'est donc pas celui-là. Ça, vous le faites, je le fais, nous le faisons très souvent. Je reviendrai là-dessus. Donc il ne s'agit pas de ces bonnes pratiques-là. Ça, c'est une bonne pratique. En effet. Ce dont il s'agit, c'est d'importer une méthode sans reste, sans ratage, sans échec, sans trou. Une méthode de l'importer littéralement partout. Partout où il y a du travail. Et évidemment, si nous sommes sensibles à cela directement, eh bien c'est parce que nous travaillons avec des êtres parlants et que ça vient toucher en nous cette chose inouïe qui fait qui la chose qui nous caractérise, à savoir la chose non collectivisable qui fait que nous sommes si différents les uns des autres. C'est cela que ça vient toucher, foncièrement. Et c'est de ce côté-là que ça vient révéler, réveiller, traumatiser, que le corps pâtit, jouit de cela. Donc évidemment, la question des souffrances au travail attrapées à partir de professionnels qui travaillent dans la relation à d'autres est quelque chose aux avant-postes de la réflexion concernant au fond ce point central. Ce point central qui consiste à, en effet, apporter de l'extérieur, le terme d'inclusion est très juste, d'inclure, là où ça n'existe pas comme élément, ça n'existe pas comme élément de travail, d'inclure une méthode, une façon de faire qui soit pour tous totale et sans reste. C'est cela la question des bonnes pratiques. L'autre point, oui, mais attends, il est 5h moins 2, je prends mes 2 minutes. L'autre point, puisque j'ai jusqu'à 17h, l'autre point, c'est le standard individualisé. C'est-à-dire que nous avons à bien considérer l'écart entre le cas par cas et le standard individualisé. Le standard individualisé part de cette inclusion, de cette méthodologie qui vise la norme, c'est-à-dire le plus petit commun de l'homme moyen, et comment on fait avec chacun d'entre nous, pour obtenir qu'il aille vers cette norme de l'homme moyen. L'autre orientation, qui est le cas par cas, qui peut se faire en groupe, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas besoin, ce n'est pas une relation individuelle nécessairement. Il suffit d'accorder une attention particularisée à un moment donné à quelqu'un, là où on se trouve, dans le travail. C'est ça le cas par cas, fondamentalement. C'est-à-dire de se préoccuper de ce point dont je parlais tout à l'heure, quand quelque chose fait qu'on pense pouvoir en repérer un petit peu de ce qu'il en est, un petit trait, voyez. Bon. Ça, c'est ce que propose en effet le discours analytique. Et c'est ce que sont les analystes qui interviennent, ou les psychologues cliniciens orientés par la psychanalyse font, soutenus par ce discours-là, ou en tout cas visent à faire soutenus par ce discours-là. Et je pense que quand vous êtes en souci, sur un certain plan, il y a les syndicats. Et sur un autre plan, eh bien, demander des analyses de pratiques professionnelles avec des professionnels orientés par la psychanalyse. Demandez cela. Parce que le petit bout de ficelle dont vous parliez tout à l'heure, la petite ficelle, on ne peut pas tout seul. Ça, c'est l'expérience qui me le fait dire. On ne peut pas tout seul la repérer facilement. Très souvent, les collègues qui travaillent en institution n'accordent pas d'importance à ce qui fait leur richesse dans le travail. C'est-à-dire, disent « oui, oh, ben, c'est du détail, oui, c'est vrai qu'on a fait ça, on a fait comme ci, mais en fait, si vous, il n'y a pas quelqu'un pour dire « mais ça, c'est une invention, c'est un point d'appui », ça part, et ça ne revient pas. Ou quand ça revient, ça reste au même niveau, et on n'en apprend rien. Donc cette marque portée au détail, le discours analytique la donne. Alors, pour finir, puisque il est l'heure de conclure, je voudrais vous lire donc une déclaration que nous souhaitons voir adoptée par cette Assemblée. Donc la déclaration des 109 du Forum PSY réuni le 7 janvier 2017 à Rouen. Je vous la lis, elle est courte. L'appel au Forum PSY lancé pour sa tenue constatait: ce qui est appelé bonne pratique est imposé par une bureaucratie sanitaire tentaculaire. Les dites « bonnes pratiques » entre guillemets sont définies hors clinique et pratiques professionnelles. De fait, elles dépossèdent les professionnels de leur acte. La déontologie médicale, l'éthique professionnelle sont ainsi rayées. Le contexte est contraint en matière de financement public, entre guillemets, et ces contraintes financières, entre guillemets, se concentrent dans la mise en place des groupements hospitaliers de territoire. Dans le même temps, les suicides des soignants se multiplient. Les médecins ne doivent plus soigner, les professionnels de l'accompagnement ne doivent plus accompagner, les psys doivent renoncer aux lumières freudiennes, l'offre de soins doit disparaître au profit de l'offre de santé. Nous serions donc, si nous acceptions, dans l'ère de la santé sans soins. À cela, l'appel du forum répondait que cette machine bureaucratique qui fait fi de l'expérience des professionnels n'est pas acceptable. Elle provoque confusion, angoisse, désarroi. L'accueil, le soin, l'accompagnement sont balayés. L'expérience et la clinique sont ridiculisées. L'objet du travail de chacun est ainsi effacé. Il y a là une véritable contrainte autoritaire des pratiques. Toute parole sur le symptôme hors norme bureaucratique est condamnée. Chacune des interventions et témoignages des différents professionnels ont confirmé ces constats. Ça avait été écrit avant, c'est confirmé. Devant cette situation des plus graves, devant la réalisation des menaces pesant sur les soins, devant les attaques contre la psychanalyse visant la promotion décidée des soins particularisés, la singularité de l'être parlant souffrant, nous, médecins, psychologues, infirmiers, éducateurs, directeurs, nous professionnels du secteur sanitaire et social, refusons de souscrire à cette orientation de santé sans soins. C'est pourquoi nous déclarons, premièrement, partout où nous intervenons, nous nous engageons à favoriser et soutenir l'orientation vers des soins particularisés. Ça, c'est pas très difficile. C'est ce que l'on souhaite, je crois, ici. Deuxième point, pour cela, nous engageons à mettre en place des rencontres et échanges en vue de suivre pour les combattre toute décision susceptible de porter atteinte à notre éthique professionnelle et à la clinique. Pour ce faire, troisième point, nous nous réunissons dès à présent en réseau professionnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'idée, ce n'est pas que ce forum soit un point final. Bon, on a bien discuté, c'était sympa, il y a de la satisfaction, c'est vrai. Je pense que beaucoup d'entre nous sont contents, globalement. Ça s'est bien passé, il y a eu de bonnes choses, on a entendu des trucs intéressants. On est peut-être un peu regonflé, formidable. D'accord, mais il doit y avoir une suite. Il faut penser cette suite. Il faut la penser, la mettre en œuvre. Parce qu'en effet, tout ce qui a été constaté va continuer. Ça va continuer. Il n'y a aucune raison, et ça continue souvent en catimini. Par exemple, en ce qui concerne la question de l'interdiction de la psychanalyste auprès des sujets autistes, la découverte s'est faite de façon... a été accidentelle de la résolution déposée par le député Fasquel. Ça a été accidentel. Donc il nous faut des cellules de veille. Et il faut que nous nous réunissions en groupement professionnel. L'idée, c'est que des directeurs rencontrent des directeurs et discutent à partir de leur fonction de directeur, que des psychologues cliniciens rencontrent des psychologues cliniciens et discutent à partir de leur métier, de leur travail, orienté par la psychanalyse, ou souhaitant en tout cas amical avec ça, voilà, et que les autres professionnels fassent de même. L'idée étant que cellule de veille, que nous nous donnions à partir de là les moyens, et nous en avons, de faire savoir ce qui se trame quand quelque chose est découvert. Et l'idée également étant que nous puissions, par ce réseau, déjà construire un réseau, parce que nous n'avons pas tout à fait l'habitude de cela, Je crois qu'on ne l'a pas du tout même. Il faut apprendre. Il faut apprendre à se défendre aussi de cette façon-là et apprendre à défendre son travail et son orientation qui est nécessaire à ce que nous souhaitons faire sous peine de sombrer, n'est-ce pas ? Sous peine de disparaître. Parce que je vous rappellerai par exemple que dans les écoles d'éducateurs, les écoles qui forment des éducateurs spécialisés, une partie des études va être consacrée aux gestes cognitivo-comportementaux. Et que ce qui se passait, qui était plutôt pluriel, comme apprentissage, comme formation, eh bien, va disparaître. Donc nous avons à défendre la clinique, les pratiques, et nous avons à défendre aussi les formations.